bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Aujourd'hui, nous verrons comment les populations locales concilient développement économique et préservation de l'environnement avec l'exemple de la culture du coton biologique dans la réserve de biosphère de la Panjari.
C'est grâce à notre directeur plus le responsable de la cave qui sont partis dans les autres pays et ils ont vu la culture de cette coton et ils ont été intéressés. Ils ont dit qu'il faut qu'ils amènent cette culture au niveau de leur localité. Ce n'était pas facile, ils ne savaient pas qu'on peut faire la culture de coton sans mettre de l'engrais, mettre de l'insecticide et ça va réussir.
Un thème que nous développerons avec Marie-Christine Cormier-Salem, chercheure à l'Institut de Recherche et de Développement et également responsable d'un laboratoire qui associe l'IRD, le Muséum d'Histoire Naturelle, sur le thème des patrimoines locaux.
Mais tout de suite, un regard environnemental sur l'actualité avec nos deux invités. Karine Gavant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du dossier climat chez Greenpeace. À vos côtés, Jean Bakouma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des forêts tropicales chez WWF, le Fonds Mondial pour la Nature.
Et pour commencer, une actualité marquée par l'annonce hier soir par le président Sarkozy de construire un deuxième réacteur nucléaire de type EPR en France. Une annonce qui a créé de vives réactions chez les antinucléaires. Karine Gavant.
Oui, on peut dire que cette annonce d'un deuxième EPR, elle signe l'arrêt de mort du Grenelle de l'environnement, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un déni total de démocratie. C'est une décision qui a été prise de manière unilatérale par le président de la République, sans concertation avec les ONG, sans étude indépendante des coûts du nucléaire, que ce soit le coût des déchets radioactifs, que ce soit le coût de ce choix technologique par rapport à d'autres choix qui auraient pu être faits, comme celui des économies d'énergie, comme celui des renouvelables. Et puis le deuxième problème que ça pose, c'est que la France est certainement le dernier pays à avoir besoin d'un réacteur nucléaire. Le Grenelle de l'environnement nous a mis sur la voie des énergies renouvelables. On est censé en avoir 23% d'ici à 2020. Ça nous a mis aussi sur la voie de l'efficacité énergétique. On est censé réduire de 20% notre consommation d'énergie d'ici à 2020. Qu'est-ce qu'on va faire d'un deuxième réacteur nucléaire ?
Alors, on augmente les pourcentages, du coup.
Ben oui, puis on nous dit que ça va être exporté en Europe. Mais ça veut dire qu'on impose notre choix du nucléaire au reste de l'Europe, tout simplement. Et par exemple, l'Allemagne, elle n'a pas du tout fait le choix du nucléaire. Elle a fait le choix des renouvelables. Elle a créé beaucoup plus d'emplois que la France. Et donc c'est une décision d'un président de la République qui se prend pour un prince et qui impose son choix à la France et au reste de l'Europe.
Très bien. Bon, on vous a entendu. De toute façon, on reviendra sur ce sujet. Alors, une matinée également marquée par la déclaration de Monaco. Des scientifiques du monde entier appellent à agir immédiatement pour stopper l'acidification des océans. Plus de 150 grands noms des sciences de la mer originaires de 26 pays tirent donc le signal d'alarme en précisant qu'il faut immédiatement réduire de manière décisive les émissions de CO2 pour éviter justement l'acidification de ces océans qui causent des dommages graves, irréversibles évidemment aux écosystèmes marins. Alors est-ce que c'est des phénomènes dont vous avez entendu parler ?
Oui, ça fait partie des multiples impacts déjà visibles des changements climatiques, parce que les océans absorbent un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pratique, hein, parce que ça limite considérablement l'augmentation des températures. On n'en serait pas là si on n'avait pas les océans. On serait beaucoup plus loin que ça dans le phénomène du changement climatique, sauf qu'à un moment donné, les océans, ils saturent, quoi.
Alors qu'est-ce qu'on entend par acidification des océans ? Ça veut dire quoi ?
C'est que le pH, il est en train de diminuer, et ça veut dire que ça risque de remettre en cause un certain nombre d'espèces marines, ça risque de remettre en cause la survie des coraux, des mollusques, des crustacés, ça risque de bouleverser complètement la chaîne alimentaire. Donc on a encore une vision assez parcellaire de ce que ça peut impliquer. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va dans le mauvais sens et ça contribue, c'est encore un des multiples impacts des changements climatiques qui devrait réveiller un peu nos gouvernements.
Alors au Chili, le trou dans la couche d'ozone provoque des étés meurtriers. Dans ce pays, les cancers de la peau ont augmenté de 100% ces 10 dernières années. Un phénomène directement lié à l'agrandissement du trou dans la couche d'ozone qui se forme durant plusieurs mois dès le printemps au-dessus de l'Antarctique. À tel point qu'aujourd'hui, on propose aux gens de porter un bracelet qui change de couleur en fonction de l'intensité des rayons ultraviolets pour se protéger. Et la municipalité d'Otofagasta vend même aux touristes le concept de plage nocturne. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction.
Non, ça ne vous inspire pas. Enfin, on en est à faire des plages nocturnes, à mettre des bracelets qui annoncent le changement des dangers des rayons ultraviolets. Là, on c'est vrai qu'on...
Baignez-vous la nuit, c'est pas dangereux.
Tout ça parce que le soleil est extrêmement dangereux.
ridicule. ça devient hilarant. Je crois qu'il faut prendre des mesures au niveau donc de la gestion des écosystèmes forestiers et déjà pour essayer de contrer ne fût-ce que le réchauffement ou les émissions de gaz à effet de serre, dont on sait que la forêt, la déforestation est responsable de 20% quand même de ces émissions. Donc je pense qu'il y a une politique en amont qu'il fallait mettre en œuvre avant d'arriver à des recommandations qui paraissent finalement quelque peu farfelues.
En même temps, quand on lit les informations qui viennent du Chili, si on s'expose actuellement au soleil avec le trou qui s'ouvre dans la couche d'ozone, on se brûle. Hein,
on se brûle, mais ça devient une conséquence de mauvais choix qui ont été faits bien avant.
Ouais. Pourtant, la couche d'ozone est considérée comme un des succès, je veux dire, des négociations internationales.
Oui. Non, mais c'est hallucinant aussi qu'on l'exploite d'un point de vue commercial en vendant un concept de plage nocturne, alors que on marche sur la tête.
Ben oui, mais bon. Alors, en Indonésie, deux femmes ont été tuées par des éléphants sauvages et un homme par un tigre. Ça s'est passé sur l'île de Sumatra, où la cohabitation entre les humains et les animaux est de plus en plus difficile parce que les forêts disparaissent trop vite. Alors, le développement des plantations, notamment de palmiers à huile, chasse ces grands mammifères de leurs habitats. Ils se retrouvent donc en lisière de la forêt, en compétition, donc un petit peu avec les hommes. Alors là, on est un peu à un point de non-retour, Jean Bakouma.
Ben, ça, c'est le vrai problème. Je pense qu'on a tellement dissocié les aspects de déforestation avec les aspects de braconnage ou en tout cas de vider la forêt de la faune. On perturbe de manière vraiment à grande échelle ce qu'on appelle la zoochorie, la dispersion des graines par les animaux dans la forêt, parce qu'il y a des espèces végétales qui ne peuvent se reproduire que si les graines ont d'abord été avalées et puis distribuées par les animaux. Donc au moment où on ne traite pas la question de la déforestation de la même manière qu'on traite la question du braconnage, on a des solutions un peu parcellaires, un peu éclatées, et la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive à des conséquences dramatiques. La déforestation va créer des boulevards qui vont faire que les animaux vont avoir la liberté de se promener et constituent finalement une grande menace pour les populations. Donc il faut traiter la question de la déforestation et la question du braconnage dans une même solution, dans un même package, si j'ose m'exprimer ainsi.
Alors, d'après votre organisation, les populations de gorilles de montagne vivant dans les zones de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo sont en augmentation.
Voilà une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle pour une fois, et plutôt inattendue, compte tenu du contexte de guerre actuel.
Oui, c'était inattendu, mais on ne va pas... On va pas s'en plaindre si la population des éléphants augmente. Parfois, l'éléphant est qualifié de grand ingénieur de la forêt parce que, effectivement, il contribue largement dans la dissémination des graines pour la reproduction de l'écosystème forestier.
Alors, dans l'actualité toujours, la Commission européenne a menacé de poursuivre 10 pays de l'Union européenne accusés de laisser fonctionner plus de 4000 installations industrielles qui polluent. Ces entreprises sont en infraction avec les règles de protection de l'environnement. Est-ce que ça fait beaucoup, Karine Gavan, 4000 entreprises? Il y en a 52 000 en Europe, des entreprises industrielles, et là on dit il y en a 4000 dans 10 pays, Belgique, Bulgarie, Espagne, Grèce, etc., qui ne sont pas aux normes.
Quel type de pollution, en fait?
Alors, ce sont des entreprises qui polluent avec ce qu'elles rejettent par leurs cheminées, etc. Donc, 4000 entreprises qui sont taxées par la Commission européenne, qui dit aux pays, si vous faites rien pour que ces entreprises deviennent propres, on va vous donner des amendes, enfin, on va passer à une phase plus répressive. C'est une bonne solution?
C'est une bonne solution, en tout cas, c'est plutôt bon signe si effectivement la Commission européenne, enfin l'Union européenne, responsabilise les gouvernements, les États membres et les forces à imposer des règles plus strictes aux entreprises. Maintenant, il faut voir quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre, si les sanctions sont effectivement des sanctions qui vont rendre obligatoires et mobiliser suffisamment les États et les entreprises pour qu'elles soient respectées. Moi, je ne connais pas plus sur ce sujet-là, mais voilà, faut voir quelle est la teneur des sanctions.
واحط ذنبي واحييه Cécile Bras, Arnaud Jouve.
Et c'était Maluma dans C'est pas du vent sur RFI. C'est maintenant le moment de se pencher sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Aujourd'hui, le Proche et le Moyen-Orient. Bonjour Frédéric Misselin.
Bonjour.
Alors on commence la revue de presse proche-orientale par les indiscrétions de Jeune Afrique qui annonce que l'Union pour la Méditerranée est en panne, de même que tous les projets environnementaux qui y sont associés.
Oui, le projet de dépollution de la Méditerranée sera-t-il une victime collatérale de la guerre à Gaza? C'est la question que pose cette semaine le magazine Jeune Afrique dans un article intitulé Requiem pour l'UPM. L'UPM, c'est l'Union pour la Méditerranée, créée en grande pompe à Paris l'été dernier sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Objectif, réunir 43 pays autour de projets concrets, dépolitiser et dépasser le conflit israélo-palestinien, notamment sur des problématiques environnementales. Alors Israël et les pays arabes cohabitent au sein de cette instance et la guerre à Gaza a brutalement ramené tout le monde à la réalité, affirme le magazine. L'Égypte, qui co-préside l'UPM, a demandé le report de toutes les réunions jusqu'à nouvel ordre. Les Algériens s'interrogent sur la nécessité de poursuivre l'aventure et selon Jeune Afrique, la Tunisie a discrètement appelé à boycotter l'Union pour dénoncer, je cite, la duplicité européenne sur Gaza.
À Abu Dhabi, en revanche, aux Émirats Arabes Unis, les autorités réaffirment que la crise économique ne remet pas en cause le projet Masdar. Masdar, c'est cette ville verte qui doit voir le jour en 2015 au beau milieu du désert.
For almost half a century, Abu Dhabi has been a world leader.
Depuis près d'un demi-siècle, Abu Dhabi est le leader mondial de la production d'énergie. Maintenant, le pays est prêt à jouer un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables.
The Masdar Initiative.
Le projet Masdar, un concept unique, une ville autonome qui va démontrer que la gestion de l'énergie et de l'eau peut être menée à bien tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Un jour, toutes les villes seront construites sur ce modèle.
Très peu de transports publics, pas de recyclage, des appartements et des centres commerciaux où l'air conditionné fonctionne en permanence. Le New York Times rappelait il y a quelques jours qu'aux Émirats Arabes Unis, l'empreinte carbonique par habitant est une des plus élevées au monde. Mais dans un pays qui n'a jamais connu l'ère industrielle, souligne le journal, l'idée de devenir une sorte de Silicon Valley de l'environnement fait son chemin. Le New York Times est donc intéressé à ce projet Masdar, une ville du futur qui a un objectif pour 2015, zéro émission de carbone. Tout a été pensé pour qu'il y ait le moins de pollution possible. Tout marchera à l'énergie solaire. Alors dans un pays où le soleil brille 365 jours par an, ça ne devrait pas poser de problème. Les véhicules seront électriques. Coût estimé de cette ville non polluante, 22 milliards de dollars. Elle accueillera 1500 entreprises, 50 000 habitants. Et on vous rassure, ces derniers, même s'ils rejettent du gaz carbonique, auront quand même le droit de respirer.
Alors on reste dans le Golfe, Frédéric. C'est le moment d'aller à Dubaï faire les soldes.
Oui, l'édition 2009 du Shopping Festival de Dubaï a été lancée jusqu'au 15 février. Le rapport avec l'actualité de l'environnement, eh bien, c'est Golf News qui nous en parle. Au détour d'une balade au village global pour acheter des textiles, des épices, de l'artisanat, on trouve un stand moins glamour mais très utile, celui des douanes. Les fonctionnaires de Dubaï y présentent les articles qu'ils ont saisis l'année dernière. Caviar, ivoire, peau de serpent, fourrure, corail. Objectif, sensibiliser les touristes au trafic illégal d'animaux. Cette campagne d'information dans les Émirats s'appelle Think Twice. Réfléchis-y à deux fois avant d'acheter donc des produits interdits. Lorsqu'on sait que le village global de Dubaï attire chaque année 4 millions de visiteurs, on se dit que les douaniers ont trouvé la bonne planque.
Merci Frédéric Misselin.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Alors Karine Gavon, est-ce que vous pensez que des initiatives comme la création de la ville de Masdar, dont parlait Frédéric à l'instant, aux Émirats Arabes Unis, vont dans le bon sens?
Oui, tout à fait, ça va dans le bon sens. Je me souviens de la citation d'un ancien ministre du pétrole d'un des pays de l'OPEP qui disait « On n'a pas attendu la fin de la pierre pour sortir de l'âge de pierre, et ben on va pas attendre la fin des réserves de pétrole pour sortir de l'âge du pétrole. C'en est un exemple concret. C'est intéressant que ces pays qui sont effectivement les premiers producteurs, exportateurs de pétrole, se lancent dès aujourd'hui dans l'exploitation, la promotion des renouvelables, parce qu'ils ont compris que c'était la solution de l'avenir, que c'était bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour l'économie, pour la sécurité énergétique, et ça répond effectivement à toutes les crises auxquelles on fait face aujourd'hui.
Alors, Dubaï a décidé de s'attaquer au trafic d'animaux. C'est un fléau présent sur toute la planète qui accélère la disparition des espèces menacées d'extinction. Alors, Jean Bakouma, une réaction peut-être à cette initiative, ça va dans le bon sens
hein. Ça va dans le bon sens, je trouve ça salutaire. Vous savez, les animaux jouent un grand rôle dans la forêt, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, des mesures de ce type, je pense que sont encourageantes.
Oui, c'est-à-dire que en fait là on entendait trafic d'ivoire, trafic de peau de serpent, c'est ce qui est très répandu.
Le trafic d'ivoire, de serpent, ça c'est des choses qui sont complètement condamnées, hein, surtout dans le cadre de la CITES. Mais prendre des mesures pour protéger cela, ça je trouve ça salutaire. Pour protéger les animaux, je trouve ça salutaire.
Est-ce qu'il y a beaucoup de mesures prises à travers le monde, des mesures vraiment efficaces, j'entends?
Ce qui est connu pour le moment, c'est la CITES, hein, qui est la convention de Washington. Maintenant, c'est dans l'application peut-être qu'il y a des failles, mais il faut renforcer l'application de ces mesures pour continuer à préserver les écosystèmes forestiers.
Merci à vous deux d'avoir joué le jeu de cette première partie. La planète dans tous ses états, on vous en parle, mais il faut aussi l'écouter vivre, au moins pendant une minute. Fou rire donc entre deux murs de pluie sur l'archipel du Spitzberg par Sébastien Gorin avec Schiff-Schaff Productions. Juste après un bref rappel de l'actualité. À tout de suite.